À Moonshot, première partie, chapitre 2. Quelques heures plus tard, à la pointe incertaine de l'aube, à l'instant où s'éveillent les bergers et les pêcheurs. Ils s'en revenaient joyeusement, les contrebandiers, leur entreprise terminée. Partis à pied, avec des précautions infinies de silence, par des ravins, par des bois, par de dangereux guets de rivières, ils s'en revenaient comme des gens, n'ayant jamais rien eu à cacher à personne, en traversant la baie d'Assoa au matin pur, dans une barque de fond tarabie louée sous la barbe des douaniers d'Espagne. Tout l'amas des montagnes et de nuages, tout le sombre chaos de la précédente nuit, s'était démêlé presque subitement, comme au coup d'une baguette magicienne. Les Pyrénées, rendues leurs proportions réelles, n'étaient plus que de moyennes montagnes aux replis baignés d'une ombre presque nocturne, mais aux crêtes nettement coupées dans un ciel qui déjà s'éclaircissait. L'air s'était fait tiède, suave, exquis à respirer, comme si tout à coup on eût changé de climat ou de saison. Et c'était le vent du sud qui commençait à souffler, le délicieux vent du sud spécial au Pays basque, qui chasse devant lui le froid, les nuages et les brumes, qui avive les nuances de toutes choses, bleuit le ciel, prolonge à l'infini les horizons, donne, même en plein hiver, des illusions d'été. Le batelier qui ramenait en France les contrebandiers poussait du fond avec sa perche longue et la barque se traînait à demi échouée. En ce moment, cette baie d'Assoa, par qui les deux pays sont séparés, semblait tarie et son lit vide d'une excessive largeur avait l'étendue plate d'un petit désert. Le jour allait décidément se lever, tranquille et un peu rose. On était au premier du mois de novembre. Sur la rive espagnole, là-bas, très loin, dans un couvent de moines, une cloche de l'extrême matin sonnait clair, annonçant la solennité religieuse de chaque automne. Et Ramuncho, bien assis dans la barque, doucement bercé et reposé après les fatigues de la nuit, humait ce vent nouveau avec un bien-être de tous ses sens, avec une joie enfantine. Il voyait s'assurer un temps radieux pour cette journée de Toussaint, qui allait lui apporter tout ce qu'il connaissait des fêtes de ce monde. La grand-messe, la partie de pelote, devant le village assemblé, puis enfin la danse du soir avec Gracieuse, le fandango au clair de lune sur la place de l'église. Il perdait peu à peu conscience de sa vie physique. Ramuncho, après sa nuit de veille, une sorte de torpeur bienfaisante sous les souffles du matin vierge, engourdissait son jeune corps, laissant son esprit en demi-rêve. Il connaissait bien d'ailleurs ses impressions et ses sensations-là, car les retours à pointe d'aube, en sécurité dans une barque où l'on s'endort, sont la suite habituelle des courses de contrebande. Et tous les détails aussi de cet estuaire de la baie d'Assoa lui étaient familiers, tous ces aspects qui changent suivant l'heure, suivant la marée monotone et régulière. Deux fois par jour, le flot marin revient remplir ce lit plat. Alors, entre la France et l'Espagne, on dirait un lac, une charmante petite mer où courent de minuscules vagues bleues, et les barques flottent, les barques vont vite, les bateliers changent leurs airs des vieux temps qu'accompagnent le grincement et les heurts des avirons cadencés. Mais quand les eaux se sont retirées, comme en ce moment-ci, il ne reste plus entre les deux pays qu'une sorte de région basse, incertaine et de changeante couleur, où marchent des hommes aux jambes nues, où des barques se traînent en rampant. Ils étaient maintenant au milieu de cette région-là, Ramuncho et sa bande, moitié sommeillant sous la lumière à peine naissante. Les couleurs des choses commençaient à s'indiquer au sortir des grisailles de la nuit. Ils glissaient, ils avançaient par un coup léger, tantôt parmi des velours jaunes qui étaient des sables, tantôt à travers des choses brunes, striées régulièrement et dangereuses aux marcheurs, qui étaient des vases. Et des milliers de petites flaques d'eau, laissées par le flot de la veille, reflétaient le jour naissant, brillaient sur l'étendue molle comme des écailles de nacre. Dans le petit désert jaune et brun, leurs bateliers suivaient le cours d'un mince filet d'argent qui représentait la baie d'Assoa à l'étal de basse mer. De temps à autre, quelques pêcheurs croisaient leur route, passaient tout près d'eux en silence, sans chanter, comme les jours où l'on rame, trop affairé à pousser du fond, debout dans sa barque et manœuvrant sa perche avec de beaux gestes plastiques. En rêvant, il s'approcha de la rive française, les contrebandiers. Et là-bas, de l'autre côté de la zone étrange sur laquelle ils voyageaient comme en traîneau, cette silhouette de vieille ville qui les fuyait lentement, C'était Fontarabie, ces hautes terres qui montaient dans le ciel avec des physionomies si âpres, c'étaient les Pyrénées espagnoles. Tout cela était l'Espagne, la montagneuse Espagne, éternellement dressée là, en face, et sans cesse préoccupant leur esprit, pays qu'il faut atteindre en silence, par les nuits noires, par les nuits sans lune, sous les pluies d'hiver, pays qui est le perpétuel but des courses dangereuses, pays qui, pour les hommes du village de Ramuncho, semble toujours fermer l'horizon du sud-ouest, tout en changeant d'apparence suivant les nuages et les heures. Pays qui s'éclaire le premier au pâle soleil des matins et masque ensuite, comme un sombre écran, le soleil rouge des soirs. Il adorait sa terre basque, Ramuncho. Et ce matin-là était une des fois où cet amour entrait plus profondément en lui-même. Dans la suite de son existence, pendant les exils, le souvenir de ces retours délicieux à l'aube, après les nuits de contrebande, devait lui causer d'indéfinissables et très angoissantes nostalgies. Mais son amour pour le sol héréditaire n'était pas aussi simple que celui de ses compagnons d'aventure. Comme tous ses sentiments, comme toutes ses sensations, il s'y mêlait des éléments très divers. D'abord, l'attachement instinctif et non analysé des ancêtres maternels au terroir natal. Puis quelque chose de plus raffiné provenant de son père, un reflet inconscient de cette admiration d'artiste qui avait retenu ici l'étranger pendant quelques saisons et lui avait donné le caprice de s'allier avec une fille de ces montagnes pour en obtenir une descendance basque.